18h01, je suis en retard. Le journal de la rédaction vous est présenté par Annabelle Grelier. Je vous laisse cette minute et vous pourrez la prendre sur le temps du débat. Bonsoir Annabelle.
Merci Emmanuel, bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et tous. Daniel Cordier, compagnon de la Libération, secrétaire de Jean Moulin, est mort. Il avait eu 100 ans cet été. Il était l'un des tout premiers Français à avoir rallié les forces françaises libres en juin 1940. Et la résistance s'organise face à l'article 24 de la loi de sécurité globale, discutée en ce moment même à l'Assemblée nationale. Elle prévoit notamment que les journalistes fassent une demande d'autorisation pour suivre une manifestation. C'est contraire à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, disent les patrons des rédactions dans une tribune publiée ce soir. Un procès peut-il se tenir par visioconférence en direct de la prison? La question soulève la polémique chez les avocats. Dans le procès des attentats de 2015, certains accusés sont toujours malades du Covid et ce serait la seule solution pour reprendre les audiences après déjà 3 semaines de suspension. Les commerçants ont obtenu gain de cause. Le Black Friday sera bien reporté d'une semaine. Ce jour de promotion commerciale devrait se tenir début décembre avec un nouveau protocole sanitaire pour accueillir les clients. Un grand homme nous quitte. On apprend ce soir la mort de Daniel Cordier. Il était l'avant-dernier compagnon de la Libération. Il est décédé à l'âge de 100 ans. Il était l'un des tout premiers à avoir rejoint les forces de la France libre. Il était le secrétaire de Jean Moulin. Et pourtant, ce n'était pas au départ le candidat idéal pour ce poste, Laura Dulieu.
Le jeune Daniel Cordier est longtemps influencé par l'antisémitisme et le royalisme de son beau-père Charles Cordier, qu'il a élevé et dont il gardera le patronyme. Daniel Cordier est un admirateur de Charles Maurras. Au moment où la guerre éclate, il n'attend qu'une chose, se battre en patriote pour la France, raison pour laquelle il est atterré par la demande d'armistice du maréchal Pétain le 17 juin 1940. Résultat, il s'engage dans la résistance et découvre que parmi les alliés à cette cause, nombreux sont communistes ou socialistes. Il rencontre à ce moment-là ceux qui deviendront ses amis, Stéphane Hessel et Raymond Aron. Ses convictions politiques changent radicalement. En 1941, il écrit à Charles Maurras et rompt avec lui. Il est envoyé à Montluçon en 1942 pour assister Georges Bidault, le chef de l'agence de presse clandestine. Et c'est le 30 juillet 1942, à Lyon, que Daniel Cordier rencontre Jean Moulin en lui apportant des documents. Le courant passe entre les deux hommes et Jean Moulin le recrute dans la foulée comme secrétaire. Ils travaillent ensemble pendant 10 mois. Daniel Cordier, à l'un de son nom de guerre, construit un véritable état-major clandestin. Il étoffe les équipes, gère le courrier et les liaisons radio. Il connaît si bien les rouages de la résistance qu'il reste en place même après l'arrestation de Jean Moulin. Après avoir été arrêté par les franquistes, il réussit finalement à rejoindre Londres en 1944. Il devient ensuite compagnon de la Libération et intègre les services secrets du général de Gaulle. Mais dès la paix revenue en 1946, il démissionne. La politique, ce n'est pas pour lui. À la place, il se lance dans l'art moderne que lui avait justement fait découvrir Jean Moulin.
Un homme qui avait une grande personnalité, vous allez l'entendre dans cet extrait de l'émission À Voix Nue en 2013. Il explique à Jérôme Clément qu'il n'était pas question de devenir un ancien combattant professionnel.
Après la guerre, tout de suite j'ai donné ma démission. J'avais réuni tous mes camarades qui sont rentrés d'Allemagne en leur disant « Écoutez, maintenant la guerre est finie, chacun organise son avenir selon ses goûts, selon ses moyens, et puis nous ne reverrons plus. » Ça crée un certain rebout. J'étais fidèle à ce que je m'étais dit en juillet 1940, en Angleterre, c'est que, après la guerre, plus jamais je ne parlerai de la guerre. C'est-à-dire le contraire de ce qu'elle avait fait par les anciens combattants de la guerre de 14 qui nous avaient barbés.
Daniel Cordier, dans l'émission À Voix Nue, c'était en 2013. Nous lui rendrons un hommage national, a déclaré ce soir le président Emmanuel Macron. A noter qu'un seul compagnon de la Libération est encore vivant, Hubert Germain, lui aussi centenaire, sur les 1038 distingués par le général de Gaulle pour leur engagement au sein de la France libre pendant l'occupation allemande. Nous reviendrons sur la disparition de Daniel Cordier avec l'historien Jean-Noël Jeannenet dans notre édition de 22h. Dernière ligne droite pour la première lecture de la proposition de loi sécurité globale à l'Assemblée nationale, avant le vote solennel qui doit se dérouler mardi, avec en ce moment un moment très attendu, l'examen de l'article 24. Il encadre l'image des policiers et il est très critiqué par l'opposition de gauche et même au centre, au nom du droit à l'information. Compte rendu avec vous, Antoine Marette.
L'article 24 est tellement sensible et l'objet d'un si grand nombre d'amendements que le ministre de l'Intérieur demande son examen en priorité afin qu'il ne soit pas examiné pendant la nuit. Dès le départ, le député Alexis Corbière donne le ton que la France insoumise souhaite infuser dans les débats.
Si cet article est adopté, c'est une limitation du droit des citoyens et de la liberté de la presse que vous inscrirez dans la loi. S'il n'y a plus d'image, que reste-t-il ? La version de la police ou la rumeur.
Exercice plus délicat pour Marine Le Pen, la députée RN cherche à ménager les forces de l'ordre tout en se démarquant du gouvernement.
Objectivement, cet article ne mérite ni excès d'opprobre, ni excès d'honneur. L'intention de nuire à des policiers ou à des gendarmes doit évidemment susciter des réactions des pouvoirs publics, mais il existe déjà des sanctions pénales, et c'est là où ça ne mérite pas non plus un excès d'honneur, pardon. Il me semble que toutes les menaces de mort qui sont diffusées contre les forces de l'ordre ne sont pas poursuivies. Or, elles devraient l'être.
L'extrême droite étant quelque peu désarçonnée par cet article, c'est à l'encontre de la France insoumise que Gérald Darmanin soigne ses arguments.
Il est notre grand devoir de protéger ceux qui nous protègent. Et la grandeur, pour répondre à M. Corbière, de la police républicaine, ce n'est pas d'être au service d'un pouvoir ou d'un autre, mais de protéger chaque citoyen et chaque expression. Je vous écoutais avec beaucoup de calme et beaucoup d'attention, et je pense qu'il faudrait que nous ayons un débat aussi calme et aussi généreux que celui que vous voulez ouvrir.
Et les débats autour de cet article se poursuivent à l'Assemblée nationale depuis maintenant plus de 3 heures.
Et cet article 24 provoque bien sûr la colère des journalistes. Il n'est pas question que nous demandions des autorisations pour couvrir des manifestations. Une trentaine de patrons de rédaction, Radio France, l'AFP, France Télévisions, Le Monde ou encore Charlie Hebdo, ont pris la plume pour l'écrire dans une tribune. Ils réaffirment leur attachement à la loi de 1881 sur la liberté de la presse et rejettent catégoriquement un quelconque encadrement des journalistes, Éric Chavroux.
Nous n'accréditerons pas nos journalistes pour couvrir les manifestations. C'est ainsi que débute cette tribune publiée juste avant l'examen de l'article 24 à l'Assemblée. Les responsables de rédaction, d'agences d'information, de radio, de télévision soulignent, je cite, leur inquiétude de la volonté du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de porter atteinte à la liberté de la presse dans le cadre des manifestations. Selon eux, cela revient à encadrer et contrôler leur travail. Ils affirment que les journalistes n'ont pas à se rapprocher de la préfecture de police pour couvrir une manifestation et qu'il n'y a pas d'accréditation à avoir pour exercer librement le métier de journaliste sur la voie publique. Avant de conclure par leur attachement au texte fondateur de 1881 sur la liberté de la presse. Ces derniers jours, de très nombreuses sociétés de journalistes et syndicats professionnels ont manifesté leur colère à ce sujet. Et juste avant cette tribune, une intersyndicale de la profession a demandé aux éditeurs et directeurs de l'information de se manifester. Hier soir, le gouvernement s'était lui engagé à amender l'article 24 pour garantir la liberté d'informer. Un premier geste d'apaisement avant un nouveau rassemblement de journalistes prévu ce samedi à Paris. Mais les images de violences policières sont souvent venues ces dernières années de particuliers et le flou demeure à leur propos.
Le procès des attentats de janvier 2015 va-t-il pouvoir reprendre lundi? Il est suspendu depuis 3 semaines en raison de plusieurs cas de Covid parmi les accusés. Le président de la cour d'assises, Régis de Jorna, souhaiterait reprendre les audiences. On en était aux plaidoiries des parties civiles, mais l'un des accusés présente toujours des symptômes du Covid, l'empêchant de comparaître. La cour envisage alors de recourir à la visioconférence. Ali Riza Pola suivrait ainsi l'audience depuis la prison où il est détenu. La nouvelle a provoqué un véritable tollé chez les avocats, aussi bien en défense que dans les rangs des parties civiles. Florence Sturm.
L'état de santé du principal accusé, Ali Riza Polat, n'est pas compatible avec une comparution physique à l'audience. L'expert médical désigné par la cour est formel. Théoriquement, le procès ne pouvait donc pas reprendre comme il était envisagé lundi prochain. Mais le président s'appuie sur une toute récente ordonnance en date du 18 novembre dernier qui lui permettrait d'avoir recours à la visioconférence, ce que dénonce haut et fort Safia Akori, l'une des avocates de la défense.
Notre garde des Sceaux, qui est un ancien avocat pénaliste spécialiste des cours d'assises, a signé jeudi une ordonnance dans laquelle a été insérée subrepticement et malhonnêtement une petite phrase permettant la comparution, malgré le refus de l'accusé, la comparution à travers la visioconférence devant une cour d'assises. Et donc on est en train de nous demander, à nous, avocats, de venir lundi matin avec notre robe noire et de nous dire que quelqu'un qui ne peut pas, parce qu'il est en train, pardonnez-moi, de vomir plusieurs fois par jour, ben en réalité on va couper le son et puis comme ça on n'entendra pas ce qui se passe et on pourra avoir la conscience tranquille en se disant que le procès s'est terminé.
Inconcevable, inenvisageable d'être complice de cette mascarade, disent de nombreux avocats, y compris ceux de la partie civile. Certains envisagent même de ne pas plaider, à l'image de Patrick Gluckman. Il défend de nombreuses victimes de la tuerie de l'hypercacher.
C'est intolérable, évidemment, parce que là on est dans une situation qui est totalement inédite et qui contamine le procès et qui fait que nous, même avocats de la partie civile, avocats des victimes, nous ne pouvons pas regarder ailleurs. Le procès est en danger parce que les droits de l'un des accusés se trouvent menacés. Nous répondons à la terreur et nous voulons que ce procès, pour qu'il soit efficace, soit indiscutable. Et là, le procès deviendrait plus que discutable, il deviendrait épouvantable. Et quels avocats serions-nous de nous y commettre ?
Les avocats, ils sont près d'une centaine dans ce procès hors norme, ont prévu de se réunir pour tenter d'adopter une position commune avant lundi et cette désormais hypothétique reprise des débats.
Florence Sturm.
Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ? Ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme.
C'est un extrait d'une vidéo qui circule sur Internet et qui invite les jeunes à se lancer dans le trading en ligne. Bonsoir Marjolaine Corr.
Bonjour.
Alors pour la cellule Investigation, vous avez enquêté sur ce phénomène inquiétant donc qui laisse beaucoup de jeunes sur le carreau.
Oui, alors sur le papier, tout a l'air formidable. Hein. Il suffirait de jouer en bourse depuis son téléphone pour gagner des revenus supplémentaires et pourquoi pas devenir riche. Des jeunes qui travaillent pour des groupes venus souvent des États-Unis vous font miroiter une fortune facile et vous invitent à les rejoindre. Samba Diagne est l'un d'entre eux et lui-même raconte sa success story dans une vidéo.
5 ans auparavant, on était de plus de 50 000 euros. Et aujourd'hui, je suis à Dubaï. J'ai un appartement de dingue, je suis en totale gratitude pour ce style de vie. Ma réalité d'aujourd'hui est plus belle que celle que je n'aurais jamais imaginée dans mes rêves.
Vous voyez, on vous promet le paradis et pour l'atteindre, on vous propose de vous abonner à une formation au trading. Une formation assez basique en réalité. Nous en avons montré une à un expert, un trader professionnel. Et Philippe Alézard est ressorti sceptique de son visionnage.
On n'est pas nécessairement effectivement obligé d'être mathématicien si on veut faire du trading, mais en fait, ça nécessite quand même une compréhension des marchés, une compréhension de l'algorithmie, et ça, c'est pas parce qu'on a vu ça, n'importe qui peut lire ce type de vidéo, donc à mon sens, c'est absolument pas suffisant pour pouvoir en tout cas devenir un trader.
Et à vrai dire, ce n'est pas très grave hein, si vous n'êtes pas bien formé, puisqu'en réalité, ce n'est pas vous qui allez jouer. Vous allez recevoir des messages qui vous diront quoi faire. Et si vous n'avez pas assez d'argent à investir en bourse, eh bien ce n'est pas un problème non plus. Vous pouvez recruter des amis pour qu'eux aussi achètent cette formation. Et plus vous ramènerez des amis, plus on vous rétribuera. Mais le problème, c'est qu'on a affaire à ce qu'on appelle un système pyramidal. Et selon Rémi Slov, de la direction de la répression des fraudes, la pratique est illégale.
Il est interdit de recruter un affilié si on soumet son recrutement à un prix d'entrée ou à l'achat, en l'occurrence, d'une formation au trading. Et si la somme qui a été versée pour rentrer est reversée ou donne lieu à des avantages ou des sommes versées aux autres adhérents.
Des enquêtes sont en cours, mais Bercy a reconnu qu'elles étaient difficiles à mener dans cette zone grise du web.
Mais si ce système est une arnaque, alors comment les gens tombent dans le panneau ?
Eh bien parce que tout est fait pour les attirer. La richesse, mais aussi le côté club des gagnants face aux losers que seraient les parents qui se contenteraient d'un salaire ridicule. Jean-Baptiste Reynès est prof dans les Hauts-de-Seine. Il a vu certains de ses élèves plonger.
On pouvait s'attendre à ce soit des élèves un peu naïfs, qui aient pas beaucoup de recul ou d'esprit critique. Et en fait, c'était complètement l'inverse. Les élèves concernés étaient, en tout cas quand on les avait en classe, des élèves qui étaient très sérieux, qui apprenaient leurs leçons très régulièrement, qui avaient beaucoup d'esprit critique, qui aimaient participer, donc se mettre en valeur souvent à l'oral, etc. Donc ça, c'est un des éléments qui nous a aussi interpellés quand on a commencé à peaufiner un petit peu nos recherches sur tout ça, quoi.
Et peu à peu, eh bien, les jeunes s'éloignent de leur famille et de leurs amis, et c'est pour cela que ces groupes intéressent désormais la Miviludes, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Moussa a vécu cette forme d'embrigadement et il le regrette aujourd'hui.
Je sais que j'ai perdu tous mes amis, je me suis éloigné de ma famille, etc. Ça a été très dur, même quand je suis sorti. Bon, j'ai réussi à faire en sorte de m'excuser et de les récupérer, mais ça a pris énormément de temps. J'ai été seul pendant un moment et ça a été très très dur quand je suis sorti. Et encore heureusement, moi j'ai réussi à reprendre un train de vie normal. J'en connais qui, eux, ont raté leurs études et tout, quoi.
Et pour un Moussa qui témoigne, beaucoup se font toujours avoir. Ainsi, dimanche dernier, une réunion de recrutement en ligne a encore rassemblé 3000 participants. Le phénomène aurait été accentué par le confinement qui laisse beaucoup d'étudiants seuls face à leur ordinateur.
Quand le trading en ligne tourne au cauchemar, l'enquête est à retrouver sur le site franceculture.fr. Le Black Friday, décidément, on n'en aura jamais autant parlé. Si l'année dernière, il était décrié comme symbole de la surconsommation, le voilà cette année en période de confinement devenu presque le symbole de survie des commerces. Ce Black Friday, ce jour de promotion commerciale qui nous vient des États-Unis, se déroule le dernier vendredi novembre. Mais cette année, la plupart des magasins, les magasins dits non essentiels, sont fermés. Alors pour que l'e-commerce ne soit pas le seul à en tirer profit, il fallait modifier le calendrier. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est allé négocier un accord avec la grande distribution et le commerce en ligne pour reporter d'une semaine l'événement. Ce fameux Black Friday aura donc lieu début décembre, le temps d'arrêter un nouveau protocole sanitaire pour la réouverture des magasins. Les explications, Anne-Laure Jumet.
La réouverture des commerces pourrait être effective autour du 1er décembre, a dit ce matin Jean Castex en déplacement dans le Finistère. L'accord trouvé à Bercy conditionne d'ailleurs ce report d'une semaine du Black Friday à une réouverture des commerces d'ici là, donc d'ici au 4 décembre. Cette opération commerciale, lancée au départ par le groupe Amazon, a pris de l'ampleur en France ces dernières années, au point qu'elle n'est plus le monopole du géant du web, ni même des acteurs du e-commerce. Elle est aussi désormais un moment de promotion dans les grandes surfaces. Sur 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés en France à cette occasion, 5 milliards profitent d'ailleurs au commerce physique, selon les chiffres donnés par Bercy. Décaler le Black Friday, c'était donc une condition sine qua non pour rouvrir les commerces et éviter un afflux de consommateurs à la recherche de bonnes affaires. Ça permettait aussi de ne pas faire le jeu du numérique si les magasins restaient fermés à cette date. En tout cas, cette négociation autour du Black Friday aura, s'il en était encore besoin, donné un coup de projecteur à cette opération commerciale qui intervient un mois avant Noël. Attention aux promotions bidons, prévient d'ailleurs l'association UFC Que Choisir, qui conseille de bien regarder le prix final et de ne pas se fier au prix barré et au pourcentage affiché.
Et les États-Unis, on y va. Je ne sais pas si le Black Friday fait autant polémique. Mais en tous les cas, près de 2 semaines après l'annonce des résultats officiels de la présidentielle, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite. Alors même qu'hier soir, le décompte des votes de la Géorgie est revenu confirmer la victoire de Joe Biden, le camp Trump parle encore de poursuites judiciaires. Bonsoir Greg Phillips.
Bonsoir.
Donc le camp Trump est toujours en train de batailler pour ne pas reconnaître finalement encore sa défaite.
Oui, en Pennsylvanie, en Géorgie, mais aussi au Nevada, dans le Michigan et l'Arizona, les avocats de Donald Trump ont multiplié les recours. À chaque fois, ils ont été déboutés par les tribunaux locaux ou ont fini par retirer leurs plaintes. Pourtant, la petite équipe de juristes emmenée par l'avocat personnel du président, Rudy Giuliani, n'en démord pas. Il y a eu à leurs yeux une fraude massive organisée. Hier, au siège du Parti républicain à Washington, l'ancien maire de New York a donné une conférence de presse assez stupéfiante pendant près de 2 heures. Il a déroulé des théories conspirationnistes, affirmant que le Venezuela, la compagnie Dominion qui fabrique les machines à voter, ou encore le philanthrope George Soros se trouvaient derrière cette manipulation.
George Soros, le plus grand donateur du Parti démocrate, le plus grand donateur aux Antifa et à Black Lives Matter, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous révéliez aux gens la vérité ?
Sur Twitter, Donald Trump vitupère aussi, parlant presque chaque jour d'une élection truquée. Le président sortant doit recevoir à la Maison-Blanche tout à l'heure des élus républicains du Michigan, état qu'il pense avoir remporté, et ce au moment où les autorités locales du Michigan doivent certifier les résultats du 3 novembre qui donnent la victoire à Joe Biden.
Merci Grégory Phillips, notre correspondant en direct de Washington. On finit ce journal avec quelques mots de la météo pour vous dire que bien demain, ça sera nuageux et ensoleillé partout ailleurs dans le sud, nuageux donc dans le nord. Les températures maximales iront de 7 à 10 degrés et 17 dans le sud, Côte d'Azur et Corse.